Suivant, lieutenant. Alors, à l'attaque.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la tactique. Alors aujourd'hui, on enregistre, nous sommes le vendredi 11 juillet 2025. Il est 14h10 pile et il fait seulement 28 degrés dans le studio. Donc c'est un temps royal pour parler des GAFAM. C'est un sujet qui nous intéresse toutes et tous, même ceux qui ne le savent pas encore. Et pour ça, je laisse Jean nous présenter la personne qui nous a invités.
Alors, une émission sur les GAFAM, donc acronyme, comme tout le monde le sait plus ou moins, donc de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Une de plus, direz-vous, certes, mais le sujet est sans fin. Sans fin car, donc, leur pouvoir économique est tel que certains parlent de transformation du capitalisme lui-même. On dériverait lentement vers un techno-féodalisme pour les uns, ou dit autrement, une économie de la rente pour les autres. Et ce même pouvoir économique leur a permis de s'attribuer, et c'est devenu manifeste avec l'élection de Trump aux États-Unis, un pouvoir politique puisqu'ils s'immiscent allègrement dans les politiques publiques et le financement des élections. Mais cette visée politique se fonde certainement sur une idéologie particulière, donc peut-être floue, mais peut-être aussi radicale, car pratiquement tous semblent vouloir dépasser, donc voire détruire, la démocratie. Et c'est pour en discuter donc l'on a le plaisir de recevoir
Fabrice Denquin. Alors, je suis professeur de sciences économiques et sociales et je suis chercheur associé à l'Université de Reims, donc dans un laboratoire qui s'appelle Philosophie et théorie économique. Voilà.
Voilà, et qui est l'auteur d'un livre sur Schumpeter.
Exactement.
Exactement. Donc, donc on va faire ça en plus ou moins en deux temps. Donc un premier temps donc sur le pouvoir économique et un deuxième temps peut-être sur le pouvoir politique et idéologique, parce que c'est quand même donc quelque chose d'important. Alors sur le pouvoir économique, donc peut-être pour situer un peu la puissance économique de ces GAFAM là, nous donner quelques chiffres sur leur chiffre d'affaires ou profit comparé à quelques PIB de certains pays. Pour commencer, pour voir un petit peu donc, la puissance financière de ces entreprises.
Alors, si on reprend ce que tu viens de dire en termes de chiffre d'affaires, donc globalement, les GAFAM représentent à peu près, je vais arrondir, 1800 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc à E5. Si on décompose un petit peu, enfin, je ne vais pas non plus arroser de chiffres, ça va emmerder tout le monde. Donc, Alphabet, c'est 350 milliards et Amazon, c'est 638 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Si on compare, par exemple, à des grosses entreprises françaises comme Carrefour, c'est 94 milliards de dollars. Donc, 94 milliards de dollars de Carrefour, 638 milliards de dollars Amazon. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même truc. Si on prend Renault, par exemple, donc, alors j'arrondis un petit peu, 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, tout ça, c'est un peu les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Alors, tu parlais de profits. Donc, si on additionne les profits de ces entreprises, en tout, globalement, ça, en disons 2024, à peu près 1 milliard de dollars de profits. 1 milliard de dollars de profits. Alors, deux, trois comparaisons. Donc, Carrefour, par exemple, c'était 850 millions de dollars de profits en 2024. Si on prend Amazon, c'est 311 milliards, même plutôt 312 milliards de profits. Bon, on pourra revenir sur d'autres choses si ça t'intéresse au niveau des chiffres. Alors, juste un chiffre, peut-être. Alors, il ne faut peut-être pas comparer avec les PIB, le PIB. Il faudra peut-être plutôt comparer avec la production, si je pinaille un petit peu. Donc, si on prend la valeur de la production, des GAFAM, et on compare avec la production française, ça représente, les GAFAM, ça représenterait 35% de la production française en 2024. Donc, 35%. Donc, pour les États-Unis, on va dire, c'est... Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais ce serait peut-être autour de peut-être 4%, quelque chose comme ça. 4% de la production française. Voilà. Alors, après, ce qui est intéressant, mais on me coupe si c'est pénible au niveau des chiffres, souvent, quand on parle des GAFAM, ce qui est impressionnant, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière, donc c'est-à-dire la valeur à l'instant T des entreprises. Là, on est quand même dans des chiffres... Oui, exactement, merci. Ouais, tout à fait, des actions. Là, on est quand même dans des chiffres très, très importants. Puisque, alors, pareil, j'arrondis un petit peu. Donc, en 2024, quand on prend les GAFAM, c'est 13 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, on pourrait un peu pinailler hein, sur ces histoires de capitalisation boursière. Et ça représente 4,5 fois la capitalisation du CAC 40, pour un peu montrer la valeur. Hein. Et quand on regarde un peu les capitalisations, la première capitalisation française, sauf erreur de ma part, c'est Hermès. Donc Hermès, c'est à peu près 292 milliards de dollars. Hein. Chez les GAFAM, on est quand même dans des chiffres beaucoup, beaucoup plus importants. Hein, parce que, alors je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, Alphabet, c'est 2200 milliards de dollars de capitalisation.
On va juste faire un point, juste pour rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'Alphabet, c'est la maison mère de Google.
Exactement, pardon.
Non, parce que, juste pour dire qu'il y a plusieurs structures et que maintenant, voilà, c'est la maison mère, c'est Alphabet.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas parler des GAFAM, mais plutôt des MAM. Aujourd'hui, des MAM. Ou AMAMA, quelque chose comme ça. Il faudra plus dire GAFAM.
C'est ça. Alors, si vous le voulez bien, on va rester sur GAFAM, parce que je pense que ça parle à plus de monde.
Ça marche.
Mais je suis d'accord. Il faut préciser que maintenant, vu qu'ils ont changé de nom, il faudrait les appeler autrement. Ouais.
Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour préciser les choses, donc pareil, Facebook, c'est pas Facebook, hein, c'est Meta, en fait. Hein. Meta plateforme, en fait. Hein, De toute façon, toutes ces entreprises, mais je pense qu'on y reviendra, sont en général des conglomérats. Hein. C'est pas simplement une entreprise, c'est des groupes, c'est des firmes multinationales. Quoi. Elles sont vraiment très, très puissantes. Donc voilà un petit peu les quelques éléments. Enfin, on pourra revenir sur d'autres chiffres si tu veux. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Moi, en fait, les chiffres, tu disais que en fait, ça ne va pas intéresser les gens. Tout dépend ce qu'on en fait, parce que là, on parle de grosses sommes d'argent.
Oui.
Et donc, juste expliquer aux personnes à quoi sert cet argent-là. Si tu m'expliques, par exemple, que Google, que Carrefour, il engorge beaucoup, mais par contre, il crée beaucoup de valeur, il embauche énormément. Donc, son argent est réinjecté dans la vie de tous les jours. Ça peut avoir un sens. Donc là, expliquer ce qu'est la capitalisation boursière et à quoi sert cet argent-là. Est-ce que ça nous profite? Est-ce que l'État français, donc est-ce que le peuple français profite d'une manière ou d'une autre à ces rentrées d'argent là ou pas?
Alors la capitalisation boursière, c'est pas une rentrée d'argent. La capitalisation boursière, c'est une valeur de marché. Donc par exemple, imaginons un instant T, on regarde sur Internet la valeur, je sais pas moi, de Apple par exemple. On va pouvoir regarder quelle est la valeur aujourd'hui, comme l'a dit Jean ou je ne sais plus qui tout à l'heure là. Donc voilà, des actions à un instant T. D'accord. Donc quelle est la valeur de marché? C'est ça qu'il faut bien comprendre, la valeur de marché.
D'accord,
sachant que cette valeur... Pardon.
C'est du vent quoi, enfin, c'est un score...
Je ne sais pas si c'est du vent,
non,
mais...
C'est un score quelque part, mais physiquement, c'est... Enfin, c'est pas...
Alors,
pas
c'est du vent, oui et non, parce que, comment dirais-je, ça représente quand même une certaine valeur.
Ouais.
Donc d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va mesurer la richesse des... notamment des personnes qu'on connaît tous, hein, les oligarques de la... Silicon Valley, enfin pas que de la Silicon Valley, mais États-Unis, c'est un peu comme ça qu'on examine leur fortune. Hein. Ouais. Donc ils ont dépassé allègrement les 100 milliards de dollars de richesse. Hein. Enfin bref, passons, alors je diverge peut-être un petit peu. Je me souviens plus. Ah oui, tu voulais savoir un petit peu quelle était l'utilisation. Alors la capitalisation boursière, je vais mettre ça de côté. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises, elles payent des impôts. Alors, je n'ai pas le détail des impôts qu'elle paye en France, mais par exemple, elle paye des impôts sur le revenu aux États-Unis. Hein. Donc, je n'ai pas fait le total, mais par exemple, aux États-Unis, en 2024, Amazon a payé plus de 9 milliards de dollars d'impôts sur le revenu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles en font de cet argent? Plusieurs choses, mais on aura peut-être aussi l'occasion de développer, notamment par rapport à l'explication de leur puissance. Hein. Par exemple, elles font de la recherche-développement. Hein. Donc, la recherche-développement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es une entreprise, par exemple, tu as besoin de développer, alors prenons un exemple dans le médicament, tu as besoin de développer, un vaccin, au hasard, contre une maladie qui nous emmerde tous. Donc, tu vas mettre de l'argent pour embaucher des techniciens, des chercheurs, payer du matériel. Donc, on appelle ça de la recherche-développement. Pour donner un ordre de grandeur, le total de la recherche-développement fait en France l'année dernière, c'est à peu près 45 milliards de dollars. C'est un peu près, à peu de choses près, la recherche des développements de Meta. Donc c'est-à-dire que Meta fait à peu près, enfin un petit peu moins, mais ça s'approche, dépense autant de fric, donc c'est à peu près 43 milliards de dollars, que l'ensemble des entreprises françaises l'année dernière. Donc ces entreprises, elles font de la recherche-développement, Elle distribue des dividendes. Donc, par exemple, si je reprends encore Meta, en 2024, elles ont distribué 5 milliards de dividendes. Apple, c'est 15 milliards de dividendes. Et elles font des investissements aussi. Elles font de l'investissement en dehors de la recherche-développement, parce qu'on peut considérer que quand une entreprise dépense de l'argent dans la recherche-développement, c'est une forme d'investissement. Par exemple, elles investissent aussi dans le matériel. Bah, prenons le cas d'Amazon, il y a eu pas mal de débats d'ailleurs. Par exemple, l'installation des fameuses, des fameux entrepôts Amazon, etc., ça, c'est pas sans poser quand même des problèmes dans certains coins. Ça, c'est une forme d'investissement. Amazon va financer la construction d'un entrepôt, c'est de l'investissement. Ils s'intéressent aux câbles sous-marins, par exemple. Ils mettent du pognon là-dedans. Donc ça aussi, c'est une forme d'investissement. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est Meta aussi qui a mis de l'argent dans les câbles. Donc pour répondre à ta question, ce sont des entreprises. Elles font un peu tout ce que font les autres entreprises. Et puis il y a d'autres choses aussi que je n'ai pas dites. Et là, je n'ai pas les chiffres. Par exemple, elles payent des intérêts parce qu'elles sont quand même aussi endettées. Elles ont quand même un peu de dette, etc., etc. Donc, elles font un certain nombre de choses avec leurs profits, avec leurs ressources.
Alors, on disait souvent quand même qu'au départ, ces entreprises-là, enfin, peut-être pas toutes, tu nous diras, elles ne faisaient pas de profit. Et que, et puis depuis un certain temps, elles commencent à faire du profit. C'est exact ou pas du tout ?
Alors, oui, c'est exact. Alors, par contre, je ne peux pas te dire à partir de quand elles font du profit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises, elles n'ont pas les mêmes âges. Parce que, par exemple, Apple et Microsoft, ils ont 50 ans. C'est quand même des quinquas, quoi. Les petits jeunes comme Meta, par exemple, ils ont une vingtaine d'années. Donc, Amazon, une trentaine d'années, etc. Donc, effectivement, ils n'ont pas toujours fait du profit.
Et ce n'est pas le même segment du tout au départ.
Non, ce n'est pas du tout le même segment. Et leurs profits ont beaucoup, beaucoup augmenté. Notamment avec, pour certaines, dans certaines activités, avec le Covid. Et avec l'IA aussi, donc peut-être. Alors, quoi que l'IA, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas trop d'analyse en détail de l'impact de l'IA, parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'IA, puis on n'a pas forcément les détails sur les chiffres ou sur la rentabilité de l'IA. Mais effectivement, elles n'ont pas toujours fait du profit. Mais elles n'ont pas le même âge, quoi. Il ne faut pas oublier ce petit détail.
Et l'IA, un peu comme les data centers et autres, c'est une niche, enfin, pour lever des fonds, si tu places les termes IA dedans, surtout aux États-Unis, tu fais des levées de fonds incroyables. Donc.
Alors, ce n'est pas qu'une levée de fonds, parce que, par exemple, elles sont quand même bien embêtées, ces entreprises. Elles ont besoin, en fait, de l'IA pour accompagner leur technologie. Par exemple, Apple a besoin de l'IA pour un peu... Parce qu'elles sont en concurrence aussi, quand même, certains, les unes avec les autres. Il ne faut pas croire. Il y a quand même de la concurrence entre elles. Et Apple est bien embêtée parce qu'ils ont du mal à développer une IA aussi performante que dans d'autres entreprises. Et donc, du coup, ils vont faire des alliances, ils vont racheter des entreprises, ils vont mettre beaucoup d'argent. Par exemple, Meta se bagarre avec Apple et avec d'autres pour débaucher des gens. On annonce des primes de 100 millions de dollars pour attirer des gens, des salariés, etc.
C'est ce que je voulais dire, le terme IA, comme le terme ordinateur quantique, permet un transfert d'argent, de mettre une valeur assez incroyable sur des choses, en fait. C'est surtout ça que je voulais dire.
Et concernant l'IA, moi, j'ai un article qui date du 5 juillet, là, sur Microsoft, qui, en fait, licencie des employés pour investir dans l'IA. Il y a aussi ce côté négatif, quoi, de la course à l'IA, en fin de compte.
Oui, vous avez raison. Donc, l'IA, effectivement, c'est un moyen... De toute façon, je vais dire une chose qui peut paraître un peu banale... Alors, quelles que soient les entreprises, que ce soit les GAFAM ou autres, l'objectif d'une entreprise, on va dire globalement, c'est pas de créer de l'emploi.
Voilà. Non, bien sûr. Non, c'est de faire du profit.
C'est pas contre ce que vous avez dit. C'est juste pour préciser les choses. Donc, c'est tout simplement. Donc, on pourrait remployer le terme qu'on utilise aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, de ressources humaines. Je pense que les mots ont un sens. Donc, parler de ressources humaines, ça veut bien dire que j'achète une ressource.
Complètement, oui.
Voilà, donc je paye une ressource. Et les entreprises dans un système capitaliste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, leur objectif, c'est de faire du profit.
Complètement, mais apparemment, depuis le Covid, là, ils ont changé une directrice. quoi, qui était un directeur avant, où l'ambiance était, quoi, était vraiment bien, ils prenaient vraiment bien soin de leurs employés. Et là, depuis le Covid, ça, la personne a, a changé. Et du coup, bah, ça part complètement. Quoi, l'ambiance, elle est aussi mauvaise que dans plein d'autres endroits maintenant. Quoi.
Bien sûr,
c'est
oui,
plus
oui.
Du tout
on,
la
on
même
chose. On pourra parler de l'ambiance du travail tout à l'heure, mais si on revient par exemple sur l'IA, ce que vous avez dit, effectivement, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. L'IA, alors si, si on fait un parallèle, alors pas que l'IA, mais la robotique par exemple, il y a aussi des articles qui sortent dans la presse, notamment anglo-saxonne, sur Amazon, donc qui a des entrepôts. Hein. Enfin, c'est l'impression d'ailleurs de voir comment les gens travaillent aujourd'hui, c'est vraiment du taylorisme,
pour, oui, enfin,
je sais pas comment on pourrait dire, les gens dont, dont le rythme est littéralement dicté par la machine avec des casques, etc. C'est quand même assez, assez interpellant, quand même, le moins qu'on puisse dire, et horrible, je rejoins tout à fait. Ben, on voit quand même que les, la, que ce soit Amazon par exemple ou même ben, les autres entreprises dont, dont Microsoft hein. Microsoft je crois que depuis le début de l'année c'est 15 000 salariés en moins à peu près. Donc l'IA est, est en partie responsable, mais moi je dirais qu'il n'y a pas que l'IA qui est responsable, c'est que de toute façon une partie des innovations a pour objectif de remplacer les salariés hein, de remplacer les travailleurs avec l'idée que ben, on sera plus efficace quoi, hein. Donc par exemple chez Amazon on va mettre des robots notamment, voilà, il semblerait que, alors bon, il faut toujours faire attention à ce qu'on peut lire dans la presse, mais que le nombre de robots chez Amazon dépasserait le nombre pour certains de salariés. Pourtant, c'est une grosse entreprise Amazon, hein. Il y a beaucoup de salariés.
Ouais, mais limite, c'est pas étonnant, parce que j'avais visité un entrepôt de la je sais plus quelle mutuelle, qui, Maïf, qui faisait, qui avait un catalogue de vente par correspondance, je crois, un truc comme ça. La Maïf. Et en fait, on avait visité, j'étais étudiante à Niort, on avait visité leur entrepôt. Et déjà, à l'époque, il y a toute une partie des commandes qui étaient préparées. C'était, il n'y avait pas d'humain, quoi. C'était juste un transpalette qui allait chercher telle palette, telle hauteur, qui descendait la palette. Alors après, il y a peut-être un humain pour descendre le colis, quoi, l'objet. Mais c'est vrai que ça, c'est sûr que là-dessus, ils peuvent gagner vraiment... beaucoup en masse salariale, quoi, malheureusement.
Alors, si on est sur l'emploi, moi, j'avais lu, enfin, me semble-t-il que le ratio chiffre d'affaires-emploi était vraiment énorme, quoi, par rapport à d'autres entreprises. Bah, tu parlais de Carrefour, etc. Alors, c'est vrai que leur chiffre d'affaires est quand même assez important, mais si on le rapporte au nombre d'emplois, en fait... Donc, il est beaucoup moindre que celui que peut être Amazon ou Apple ou de ces entreprises-là, c'est vrai.
Oui, enfin, j'ai pas fait les calculs, mais globalement, comment dirais-je, on peut considérer que les GAFAM et le numérique, bah, alors, il faudra affiner. Honnêtement, j'ai pas fait une étude précise sur la chose. C'est pas forcément des énormes créateurs d'emplois. C'est pas forcément des gros créateurs d'emplois. Carrefour, dans les stats que j'ai, c'est 325 000 salariés à peu près. Alors Amazon, c'est peut-être un cas, parce qu'ils ont quand même ils ont quand même besoin de main-d'œuvre pour l'instant. Donc 1 556 000 salariés quand même. Mais par exemple, Meta, c'est 74 000 salariés. Donc il y a moins de salariés chez Meta, et pour un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que par exemple chez Renault. Hein, c'est à peu près 3 fois... Bon, j'exagère un peu, entre 2,5 et 3 fois le chiffre d'affaires. Et c'est quand même, on va dire, 15% de moins de salariés. Quoi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément des énormes créateurs d'emplois directs. Alors, si on est vraiment honnête, si on essaie un petit peu d'être carré, il faudrait regarder un petit peu quels sont aussi les... Parce qu'ils ont aussi tendance à... Comment dire ? Il y a un grand mot à la mode aujourd'hui, enfin, une notion qui est beaucoup utilisée par les économistes, c'est la chaîne de valeur. Hein, donc, la chaîne de valeur, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire qu'on va s'intéresser, en fait... à l'élaboration d'un produit du début. Donc, on va élaborer le produit jusqu'à la vente du produit. Or, par exemple, un des modèles des GAFA, GAFAM, qui n'est pas forcément le même partout, c'est aussi, comment ça s'appelle, sortir certaines activités de leur portefeuille. Quoi. Je prends un exemple, Apple. Apple n'a pas l'usine. Hein. Donc, Apple, c'est 164 000 salariés, donc 391 milliards de chiffre d'affaires. Mais Apple, c'est quand même. Alors, c'est un cas intéressant parmi les GAFAM parce que c'est quand même une entreprise qui fabrique un bien, enfin des biens. Hein. La moitié du chiffre d'affaires d'Apple, c'est les iPhones, quoi. Hein. Donc c'est quand même, une entreprise qui dépend quand même de la production de biens. Or, ces biens, il n'y a pas d'usine directement Apple, quoi. Hein, il n'y a pas d'usine Apple. Donc, ils vont externaliser, ils vont sous-traiter, par exemple, la fameuse usine, les fameux sous-traitants Foxconn, donc notamment en Chine, mais pas que. Donc, voilà. Donc,
Il faudrait ajouter ces emplois-là.
Il faudrait ajouter la part de, comme tu viens de le dire, de ce qui est réalisé chez Foxconn, par exemple. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait le calcul. Hein, donc, quelle est exactement la... Bon, c'est une question qui est pas évidente. Hein. Quelle est exactement la part des emplois qui serait directement contrôlée et indirectement contrôlée par les GAFAM ? J'avoue que je ne sais pas. Ouais. Je peux juste te dire un chiffre encore. C'est que le total, l'année dernière, alors avant la baisse d'emploi qu'on a évoquée il y a un instant, notamment chez Microsoft, hein, c'était 2 200 000 personnes. Il y avait 2 200 000 salariés en 2024, globalement, chez les GAFAM. C'était un peu ça. Voilà.
Alors, puisqu'on est sur l'emploi, donc en fait, quand on pense GAFAM, on pense emploi ingénieur, cadre sup, tout ça. Mais on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle les petites mains du clic derrière, qui sont eux aussi, je pense, externalisés beaucoup donc dans les pays en développement. Tu pourrais nous donner quelques exemples du type de travail, du type de salaire que ces entreprises-là
Alors, comme tu viens de le dire, en fait, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est vrai que quand on pense GAFA, on en parlait un petit peu tout à l'heure, l'image qu'on peut avoir dans les médias, c'est que c'est vachement cool de travailler dans les GAFAM, ça va être sympa. Par exemple, on peut des fois avoir à mettre des médecins, ils embauchent des fois des médecins, etc., qui sont reliés à certains salariés, etc. Sauf que, dans les GAFAM, quand on lit un peu les travaux des sociologues notamment, on se rend compte que, comme dans un certain nombre d'entreprises, il y a différents types de salariés, en fait, et même différents types de statuts. Donc, même à l'intérieur des GAFAM, entre les personnes, par exemple, qui vont faire des boulots du style du nettoyage, faire de la livraison, le jardinage, etc., et il y a différents statuts. Par exemple, alors, j'ai un vieux chiffre de 2019, et il y a aussi parfois pas mal de contrats temporaires. Par exemple, chez Google, c'est 40% des salariés. C'était en 2019. Hein. Donc 40% des salariés travaillent à temporaire. Et puis on peut monter comme ça jusqu'à arriver, par exemple, à un moment donné, à ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne supérieure, qui a fait l'objet de certains travaux là, de sociologues. Donc ça va être, comme tu viens de le dire, des ingénieurs, des codeurs, des gens comme ça, des gens qui vont manager, enfin qui font des choses que je connais pas bien d'ailleurs, que je sais pas bien décrire. Puis après, il va y avoir encore au-dessus, après, sans doute, des cadres très 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 haut placés qui vont dans le conseil d'administration, etc. Donc en fait, c'est une véritable... Alors, je dirais peut-être pas une pyramide, mais il y a quand même une hiérarchie assez importante. Et en plus... Comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont faire des boulots absolument terribles. C'est-à-dire que pour faire tourner, par exemple, l'IA, il va falloir contribuer à lui faire apprendre des choses à l'IA. Hein. Donc, par exemple, à l'entraîner en lui disant « voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien, etc. » Puis corriger des erreurs qui sont faites aussi. Hein. Donc ça va être soit sous-traité, soit ça peut être aussi réalisé par des entreprises qui appartiennent aux GAFAM. Parce que ce qu'on sait peut-être pas bien, c'est qu'il y a une très grosse entreprise qui appartient à Amazon. Hein. Donc il s'appelle, le nom m'échappe, je ne sais plus. Bref, il y a une entreprise qui appartient à Amazon, le site c'est AMT, hein, je crois que c'est Amazon Mechanical Turkey, ouais. Qui, est une entreprise en fait qui fait tout simplement, va employer des gens que tu viens de qualifier de travailleurs du clic là, pour corriger des erreurs, etc., faire du commentaire de texte, commenter des photos, recibler des choses, etc.
Alors il y a eu des, aussi, je crois.
Il y a beaucoup de sous-traitants aussi, parce qu'il y a quand même des travailleurs dans les pays développés. Je crois qu'aux États-Unis, il y en avait il y a quelques années, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent pour le Venezuela, mais aussi à un moment donné en Russie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Alors après, honnêtement, au niveau des salaires, je pense que c'est assez variable. Mais pour certaines personnes qui travaillent, ils vont être des fois payés à la tâche. Et ça peut être... Alors, je n'ai pas de chiffre, en fait, en moyenne. Hein. Faut faire attention aussi aux chiffres qu'on sort. Ça va être du 2$ de l'heure, quoi. Hein. Et puis, des fois, des conditions de travail difficiles, parce que des fois, il faut travailler la nuit, etc. Parce que l'idée, c'est que ces corrections se passent 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que par exemple, si on a une telle entreprise ou une telle plateforme aux États-Unis, elle va s'arrêter à 18h, bah, elle va être relayée par exemple ailleurs dans le monde.
Dans un autre fuseau horaire.
Quoi. Exactement, dans un autre fuseau horaire. Hein. Donc, et puis avec des tarifs qui ne sont pas forcément exactement les mêmes.
Hein. Oui, bah, souvent l'Inde, tout ça quoi, l'Inde, ils sont réputés pour être très bons en informatique.
Oui, et très qualifiés.
Oui, et bah, probablement très sous-payés aussi. Quoi.
Oui, tout à fait. Donc il y avait un article qui est souvent repris en boucle. C'est ce que je répète, hein, il faudra un petit peu regarder en détail les salaires, c'est pas forcément évident, je crois que c'est un article du Times qui avait été fait, et là on évoquait souvent effectivement un chiffre de à peu près $2 de l'heure, ce qui est quand même pas grand chose, plus des conditions de travail qui peut être assez terribles, parce que par exemple, ça veut dire déjà être face à l'écran, et puis ça veut dire aussi des fois par exemple assister à des scènes absolument abjectes, hein, corriger parce que l'ordinateur finalement c'est con, hein. Enfin, c'est con, c'est pas humain, hein, voilà. Voilà, exactement. Tout à fait, donc avoir des scènes de violence, dire ça c'est une scène de violence, c'est pas gentil, donc on va cliquer, etc. Donc il y a des gens qui se sont plaints il y a pas très très longtemps d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a bien sûr, alors si on rajoute une petite couche, les GAFAM, ça je pense que tout le monde a bien compris ou le sait, sans rajouter une couche, il y a quand même pas une culture très pro-syndicale. Hein. Hein,
ouais,
pour être gentil.
Ah bon,
ouais, c'est dingue. Hein,
c'est dingue.
Alors, même si il y a apparemment certaines personnes, notamment la classe moyenne supérieure dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui semblerait quelques velléités à vouloir se syndiquer quand même. Hein.
Moi, chez Amazon, il y a eu des conflits. Là,
il y a des conflits. On pourra en parler après.
Ouais, mais c'est pas le même segment. Moi, pour avoir pour faire de la recherche avec Google, c'est un terrain de jeu qu'ils offrent à des personnes qui ont 25-30 ans. Qui est incroyable, c'est que dans l'image, on va avoir l'image en France d'une centrale nucléaire qui arrive quelque part et qui va arroser le pays, enfin la commune aux alentours pour des terrains de jeu ou autre chose, pour on va dire acheter un peu la paix sociale,
les ronds-points,
pour acheter plein de trucs. En fait, chez Google, si tu c'est pour un développeur ou quelqu'un qui fait de la recherche, et que c'est un terrain de jeu incroyable, c'est un terrain de jeu incroyable, il y a de l'argent qui est incroyable. C'est enfin bref, je voudrais bien qu'on revienne après à une question qui serait le côté monopole des GAFAM, parce qu'en fait là on parle plus de l'informatique que d'une manière générale plutôt que des GAFAM. Pour revenir de deux points à ce qu'on vient d'aborder, c'est que l'apprentissage, vous en avez toutes et tous fait, et on en fait tous les jours sur Internet pour eux. En fait, quand à un moment donné, vous avez des CAPTCHA, en fait, des méthodes de vérification, et on vous demande de définir où est une moto, où on vous demande de dire ce qu'il y a à l'écran, quel chiffre c'est. En fait, c'est un moteur d'apprentissage parce qu'il part du principe que 80-90% de la population va donner le bon résultat. Et donc, d'une certaine façon, vous aidez, vous travaillez gratuitement au moteur d'apprentissage. Et ce qui, aujourd'hui, là, on se pose la question par rapport à l'IA, mais ça fait 5 ans, 10 ans que quand vous faites OK Google ou OK Siri ou autre chose, eh ben, y a des personnes derrière
qui... Oui, c'est ça, justement, j'avais ça en tête. Alors, c'est des gens qui écoutent vraiment ce qui est dit, en fait.
À l'époque, moi, quand je faisais de la recherche, c'était il y avait l'image de l'étudiant à l'étranger qui retranscrivait ça, en fait. Donc oui, il y a rien de réellement nouveau, mais bref.
Alors, si je commence ce que tu viens de dire, alors, je vais sortir un peu des GAFAM. Il y a quand même un truc qui est absolument génial. Pas que dans les GAFAM, d'ailleurs, c'est le travail gratuit. Enfin, alors, faudrait discuter du travail. Moi, je suis pas assez armé peut-être pour faire ça, mais du travail gratuit. Donc, si on appelle travail un effort...
Du travail volé, tu veux dire
oui, ben voler, ça dépend, parce que tu viens de dire nous, vous, mais toi aussi, tu donnes sans doute ton travail, tes efforts, quand tu cliques. Et par exemple, le fait de, ben, je sais pas, on va faire peut-être parfois nos courses quelque part. Lorsque, par exemple, on va se servir dans un supermarché ou ailleurs, enfin peu importe, et si on passe par exemple par des caisses automatiques, ben, finalement, on travaille quelque part.
Ouais, clairement, oui.
Voilà, donc il y a une forme de travail qui est quand même assez malin. Lorsque, par exemple, je paye, je fais mon code, etc., c'est une forme de travail, quelque part. Enfin, on pourrait assimiler ça. Je vais faire mon plein d'essence, pour ceux qui ont une voiture, bien sûr. Je vais faire mon plein d'essence. Finalement, c'est moi qui vais travailler, alors que, bon, je parle aux gens qui ont mon âge, par exemple. Avant, il y avait des gens qui...
Je pense qu'on est tous concernés.
Tout le monde a peut-être connu ça dans certains pays. D'ailleurs, ça existe un petit encore, donc des fameux pompistes, etc. Donc, le système, on va dire, capitaliste, il est aussi assez malin, finalement, pour... Après, tu mets ce que tu veux comme terme. Je veux dire capter, s'approprier, hein, pour reprendre des mots qui sont utilisés par les économistes un petit peu aujourd'hui ou par les sociologues. Donc, s'approprier un petit peu de la valeur, on va dire ça comme ça. Donc, c'est peut-être aussi un moyen très, très prude pour dire piquer du travail, hein, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Mais ce qui est aussi hallucinant aussi, c'est sous forme un petit peu peut-être de jeu. C'est-à-dire que, enfin, de jeu entre guillemets, et puis d'habitude, de normalisation. Par exemple, tu vas au restaurant et tu vas noter ton restaurant. Bah, quand tu notes ton restaurant... Voilà, ou quand tu fais un commentaire, par exemple, ou quand on fait un commentaire, ou quand je fais un commentaire, moi j'en fais pas, mais bon, quand je fais un commentaire ou quelqu'un fait un commentaire sur un livre qu'il a lu, sur un film qu'il a vu, sur un restaurant, bah, finalement c'est une forme de données qui est transmise, qui peut être captée par les plateformes, etc., et qui constitue finalement quelque chose, une espèce d'information qui peut être aussi marchandisée. Donc le travail entre guillemets gratuit, ouais, c'est pas que les étudiants qui font du travail gratuit, hein, donc il y a pas que. Finalement, ce qui est intéressant et interpellant en même temps, c'est que, alors notamment avec les plateformes, le développement des plateformes, etc. Eh bien, il y a une espèce de confusion entre la consommation, enfin, je sais pas si je suis très clair là, hein, entre la consommation et finalement le travail, quoi. Voilà.
Consommer, c'est faire du travail gratuit pour les plateformes, c'est ça.
Un peu, oui, quand même, quelque part. Ouais, c'est,
bah c'est vrai qu'on fait tout en commande en ligne, on n'a plus besoin de... On dit, livrez-moi à la FNAC tel jour, et puis voilà, quoi. C'est vrai que tout passe, il n'y a plus besoin de personne derrière, quoi. Parce que la personne qui va prendre le livre en rayon pour le mettre, mais de côté. Mais...
Et puis les GAFAM, il faut rajouter un petit truc aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça, c'est pas nouveau, hein, donc des débats autour de... le modèle un peu du numérique, quoi, si on élargit un peu les propos du numérique, en se disant, bah, on pourrait imaginer un numérique, comment dirais-je, qui serait pas basé sur l'accumulation de profits ou des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, les GAFAM sont... Alors, j'avoue que j'ai pas encore de réflexion complètement peut-être pertinente là-dessus, mais ils vont aussi profiter des fois de logiciels gratuits. Hein. Ils utilisent beaucoup d'applications gratuites et de logiciels gratuits sans forcément contribuer. Donc ils captent en fait quelque chose qui peut apparaître comme une espèce de passion. Alors moi, je ne suis pas moi-même un informaticien, mais je peux parfaitement comprendre que des gens s'éclatent à coder, s'éclatent à faire des trucs, etc. Un des premiers jeux vidéo qui a été inventé, je crois que c'est dans les années 60, c'est Space Invader. C'était des petits jeunes aux États-Unis qui voulaient se marrer, etc. Donc ils ont inventé un truc pour s'éclater, quoi. Bon, ben, en s'éclatant, en développant un petit peu ce genre de choses, ben, ils contribuent à créer des techniques, ils contribuent à créer de la connaissance qui va être accaparée, finalement, qui peut être accaparée par un système qui a bien compris que là, il y avait véritablement des moyens de gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Hein. Donc, les GAFAM, s'ils peuvent récupérer des choses sans les payer... on connaît bien le modèle des moteurs de recherche, etc. Donc voilà, on dit c'est chouette, c'est gratuit, donc j'utilise, c'est chouette. Bon, en même temps, on va fournir des choses, on va fournir des informations qui vont être marchandisées, quoi, tout simplement.
D'autant que il me semble bien que Google a numérisé tout un tas de
livres
et tout. Notamment. Ça, et que maintenant, par exemple, les chercheurs en France ce à quoi ils avaient, les articles auxquels ils avaient accès gratuitement. Maintenant, il faut qu'ils les payent, quoi, les articles de leur père, quoi. Pas, quoi. Après, il y a des livres, c'est normal, peut-être que. Mais du coup, c'est revendu après, quoi.
Alors pas forcément pour tous les livres, hein, parce que bon, par exemple, quand on lit des articles, on connaît bien ça. Par exemple, comme Cairn, des choses comme ça, même si c'est pas forcément évident. Et puis sur la Bibliothèque nationale, par exemple Gallica, il y a quand même des choses qu'on peut arriver à voir, quoi.
Oui. Ouais, ouais. Mais a priori, il y a quand même Google s'en est quand même approprié une partie.
Alors après, j'avoue que je connais pas bien les droits, par exemple, les droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont un peu pris entre deux feux, là, entre la volonté de verrouiller des choses, etc., et puis effectivement de capter des choses, quoi. Ouais.
Je pense que ce qu'ils font, enfin, pas traîner là-dessus, mais ils publient les livres qui sont tombés dans le domaine public, ouais, que tu peux trouver, et sur ceux qui ne sont pas tombés dans le domaine public, ils mettent des extraits seulement.
D'accord.
Enfin, il me semble.
Et des liens publicitaires. Des liens... tu peux avoir des liens, par exemple, vers que je vais pas citer, des plateformes bien connues ou moins connues. Hein, si tu cliques, par exemple, on va dire, tu vas tomber sur un bouquin Google Book, etc. Si tu veux avoir ce bouquin-là, tu peux l'acheter là, etc. Ça, je pense qu'il y a aussi du placement produit et aussi une rémunération de publicité. Hein.
Ouais, je reviens sur ce sujet-là après, parce que j'ai une foultitude de questions et d'informations à donner là-dessus. Mais avant, je voudrais donc passer par une question que Jean avait notée. On dit souvent que les GAFAM sont en position de monopole. Et je pense qu'il est important de l'aborder, parce qu'en fait, pourquoi on en parle ? Parce que pour l'instant, il y a plein de choses qui pourraient ne pas être choquantes, mais il faut peut-être aborder le côté monopole, justement, de ça. Parce que quand tu as parlé, par exemple, des applications gratuites, oui, Android est basé sur l'open source, donc sur un logiciel libre. Apple, au départ, le système d'exploitation, c'est pareil. À un moment donné, quelqu'un qui injecte énormément d'argent dedans à partir d'un produit libre et qui le fait fructifier et rend un peu son produit le seul sur le marché, pour parler d'Android par exemple, on peut se poser la question, doit-on avoir peur d'un tel monopole ?
Ah, alors le monopole, alors bon, ben non, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça soit des monopoles. Ce ne sont pas des monopoles, non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là.
Pourquoi ?
Ce sont pas des monopoles. C'est quoi un monopole ? Prenons une définition. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais la définition d'un monopole, c'est pas si simple que ça. Mais si tu prends une définition de base d'un monopole, ça va être, en gros, tu as une entreprise qui a 100% du marché pour un produit.
Ok.
Hein ? D'accord ? Si on prend une définition vraiment de base, ok ? 100% d'un marché d'un produit. Eh bien, aucune de ces entreprises n'a 100% du marché de ces produits.
Okay.
Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des entreprises puissantes, bien entendu. Hein. Donc là, je vais faire à 8 mai, ou non mai plutôt. Donc non, ce ne sont pas des monopoles. Non, ce ne sont pas des monopoles. Par exemple, Amazon n'a pas le monopole du commerce en ligne.
Ils le voudraient bien, ça part.
Bien sûr. Tu as raison, là, je ne peux que te suivre. Ils aiment le monopole. Ils aimeraient tous avoir le monopole. Hein, y a quand même des charmes. Ils sont extrêmement puissants. Par moment, ils ont pu avoir des choses qui ressemblent au monopole. Par moment, ils ont pu eux-mêmes être... parce qu'il ne faut pas oublier un petit détail, c'est qu'il y a aussi des entreprises parfois qui ont réussi à piquer des parts de marché à d'autres où il y a eu des échecs, par exemple. Hein. Même Microsoft a connu des échecs. Meta, avec le Metaverse, c'est un peu ramassé pour l'instant.
Oui, c'est clair.
Je pense vraiment justement qu'il avait choisi le nom Meta.
Tout à fait.
Parce qu'il pensait vraiment que le Metaverse allait devenir...
Tu as tout à fait raison, c'est l'explication que j'ai aussi. Donc ce ne sont pas des entreprises qui ont le monopole. Si on prend le cas, par exemple, de Google... avec le moteur de recherche. Peut-être que je pinaille, et encore, je vais pinailler, et puis après je vais un peu être plus sérieux, mais même si, par exemple, Google a 90% dans les pays occidentaux, c'est 90% de part de marché au niveau des recherches, c'est pas 100%. Ouais. Et c'est pas mondial. Parce que quand on sort des chiffres, en général, c'est aussi le problème des chiffres sur les GAFAM, c'est qu'on oublie un petit détail, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la Chine.
Ah oui.
Et oui. Donc il y a la Chine. La Chine, voilà, exactement. Et des fois la Russie. Des fois dans les chiffres, on n'a ni la Chine ni la Russie. Donc on sait que, voilà. Donc en fait, il n'y a pas. Je ne dirais pas que ces entreprises sont en position de monopole. Moi, je n'aime pas qu'on utilise ce terme dans ce sens-là. Alors après, des fois, il y a des gens qui disent, oui, ils sont en position de monopolistique. Alors peut-être que le terme qui serait le plus adéquat, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on pourrait appeler ça un oligopole. Ils sont peut-être en position d'oligopole. Et là, ce qu'on pourrait dire, et là je serais peut-être d'accord, c'est qu'effectivement, ils ont un pouvoir de marché qui est très impressionnant. Là, on est d'accord. Ils ont un pouvoir de marché très, très impressionnant.
Ok, alors je rebondis forcément dessus parce que moi, le marché, je m'en tamponne. Moi, c'est le pouvoir de l'information qui m'intéresse. Parce qu'en fait, Google, au départ, c'est un moteur de recherche, on est bien d'accord. Un moteur de recherche qui va parcourir Internet qui est un ensemble d'informations accessibles à tout le monde. Les moteurs de recherche étaient là pour, grosso modo, t'aider à faire un tri dans les informations les plus pertinentes ou pas. Google s'est avéré être un très bon moteur de recherche à un moment donné. On ne peut pas leur reprocher ça. Et donc, c'est devenu l'un des moteurs pour nous les plus utilisés. Depuis, Google s'est mis à fabriquer de l'information. Et donc, à un moment donné, Google, le moteur de recherche, indique ses propres données en tête d'affiche. Est-ce que réellement, Google est toujours un moteur de recherche vu qu'il produit de l'information et n'assiste pas plutôt à un monopole de diffusion de l'information plutôt. C'est que pour beaucoup de personnes, ils vont citer Facebook ou Google à la place d'Internet. Pour moi, Internet, c'est un espace de liberté de transmission d'informations. Et là, on a des sociétés qui, au départ, t'aident à aller chercher des informations pertinentes, qui fabriquent de l'information. Et donc, qui, à un moment donné, est-ce que réellement c'est des moteurs de recherche ou est-ce que c'est des créateurs de contenu ? Et dans ce cas-là, pour moi, on a une dérive, justement, du modèle. Je sais pas si je suis clair.
Non, je comprends ta question. Je vais malheureusement pas bien y répondre. Je suis pas d'accord avec cette idée que Google est un moteur d'information. Pour moi, c'est pas, enfin pas un monopole d'information, pardon. Google, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, c'est quand même une entreprise qui dépend en partie aussi de la publicité. Donc, ils vont hiérarchiser peut-être de l'information. Enfin, pas peut-être, ils vont hiérarchiser des informations. Mais je ne dirais pas que Google est a le monopole de l'information.
Alors, est-ce que Google
quand on regarde les moteurs de recherche, par exemple, déjà, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'utilise assez peu Google, finalement. Alors, je dois être sans doute une espèce de vieux geek, là, je ne sais pas quoi. Donc, j'utilise relativement peu Google, même si j'avoue y revenir quand même dessus, parce qu'il y a un truc qu'on appelle l'effet réseau, donc ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de moteurs de recherche. Et puis, comment dire ? Non, je ne pense pas. Alors, est-ce qu'ils produisent de l'information ou pas ? J'ai beaucoup de mal à y répondre. Peut-être que oui. Moi, j'aurais plutôt l'impression, mais une nouvelle fois, je ne vais pas bien répondre à ta remarque, à ce que tu dis. Moi, j'aurais plutôt l'impression qu'ils arrangent, qu'ils combinent l'information plutôt que qu'ils aient un monopole l'information.
Une standardisation peut-être par rapport aux résultats proposés.
Bah, je suis pas sûr parce que, par exemple, il me semble, et quelqu'un me corrigera autour de la table si je dis des bêtises, mais si, par exemple, là, tout d'un coup, tous les cinq autour de la table, on fait une recherche sur Google, par exemple, on ne trouvera pas la même chose. Je suis pas sûr qu'on trouvera exactement le même résultat qui s'affichera. Je ne suis pas certain.
Parce que ça dépend de tes recherches antécédentes.
Bah, je crois, mais là j'avoue, marche un peu sur des
autres. Ça dépend aussi, je pense, de ce qu'ils veulent nous inculquer. Quoi.
C'est ou nous vendre, tout simplement, vendre, ouais, bien sûr. Ouais.
Je pense que c'est partial, quoi, le choix.
Bah oui, et puis d'une certaine façon, donc, je vais passer du coq à l'âne. Passons à Facebook, où à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va mandater Facebook pour vérifier des informations pour aller à la chasse aux fake news. Nous, la page d'attaque a été inaccessible parce qu'à un moment donné, vu qu'on publie des informations que diffusées nationales, on a dit que notre page était fausse. Et là, donc, c'est bien parce que je peux même dire que le 30 juin, la page de Monsieur Mondialisation a disparu de Facebook, justement. À cause d'une photo d'un peuple autochtone, les Yanomami, au milieu de la forêt, qui était associé par Meta à de la nudité infantile. Et donc, Monsieur Mondialisation a été rayé de la carte. Internet, en fait. À un moment donné, comment on lutte contre ça ? Comment on peut donner autant de pouvoir à Facebook, en fait ? C'est eux qui détiennent, à un moment donné, on leur a donné le choix de dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est aussi en ça que j'ai peur du contrôle de l'information, c'est que là, Monsieur Mondialisation, c'est quand même un gros il a de la chance. D'autres plus petits n'ont pas cette chance-là. Comment, c'est aussi en ça que je parlais de standardisation de l'information et comment on fait pour vérifier cette information-là. Parce qu'on demande aussi à ces sociétés-là de vérifier. Mais qui les vérifie, elles ? C'est surtout ça que j'ai peur, c'est cette standardisation des GAFAM, enfin d'une partie des GAFAM, qu'on a laissé faire.
Donc tout est fait par des êtres humains, et quelle que soit la personne, elle est formatée, elle a ses idées. Et que tout ce qui est dans les réseaux, dans les GAFAM, dans tout ça, ce sont des personnes qui ont leurs idées et qui restent et qui sont enfermées dans ces idées-là. Donc, ou dans des politiques. Hein. Pas de nudité à l'écran. Et ben voilà.
Oui, mais à côté de ça, moi, il m'est arrivé sur ma page professionnelle d'avoir quelqu'un avec quoi. C'était un profil arabe avec quoi, de l'écriture machin. Où j'avais sur son profil, tu avais des photos de Hitler et tu avais deux fillettes décapitées. Ça passe crème, quoi. Et on peut pas voir un téton sur Facebook parce que il y a un moment, alors je l'ai bloqué et puis j'ai pas cherché à savoir s'il faisait l'apologie d'Hitler ou je sais pas quoi, mais
Facebook qui est bloqué.
Ah non, là, c'est pas Facebook qui a bloqué, non. Non, non.
J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Hein. Normalement, vous posez des questions que j'ai pas de réponse. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre législatif des GAFAM, notamment, mais pas que, hein, aussi des autres entreprises, c'est qu'ils sont pas forcément responsables. Enfin, en théorie, ils sont pas forcément. Enfin, pendant longtemps, ils n'ont pas été totalement responsables du contenu. Alors, il faut être assez prudent. Là, je suis pas trop juriste là-dessus. Ils ont pas été. Voilà, ils ont pas le statut de d'éditeur. Ils avaient le statut fameux d'hébergeur. Là, hein. Donc voilà. Bon, après, le truc, c'était le principe, c'était de dire, on trouve du contenu. Bah, c'est ce que vous disiez là. Donc des choses qui sont choquantes, quoi, même. Eh bien, là, dans ce cas-là, dès que là, c'est publié, ils doivent les enlever. Donc c'est un peu ça, si j'ai bien compris, ce qui va un petit peu persister. Aujourd'hui, par exemple, si on parle un petit peu de la RGPD, ça va être le consentement, un petit peu le consentement. Mais par rapport à ce que tu disais, Simon, sur le tri, bah oui, il peut y avoir des politiques, et encore, je suis pas... Alors moi, je n'utilise pas, mais je n'utilise pas Facebook, hein, je suis pas sur les réseaux sociaux. Mais il peut y avoir des gens, effectivement, qui vont trier les informations qui sont publiées sur les différents réseaux sociaux. Et il y a aussi eu la création, ces dernières années, de différents réseaux sociaux, qu'on pourrait dire de droite, voire même d'extrême droite, dans laquelle le tri, effectivement, n'est peut-être pas tout à fait le même. Alors, en même temps, c'est assez complexe. Parce que normalement, une des principes qui est avancée, en tout cas aux États-Unis, mais qui est sans doute un petit peu... je ne sais pas comment je pourrais dire ça gentiment, un peu fourbe peut-être, c'est la liberté d'expression, hein, notamment avec le premier amendement, par exemple. Hein. Donc le droit de pouvoir s'exprimer, etc. Là, par exemple, il y a un truc complètement hallucinant, c'est la déclaration, il y a quelques mois, de Zuckerberg, hein, donc le PDG de Facebook, qui disait tout simplement, voilà, on avait des modérateurs, ben, on les a virés, nos modérateurs, parce qu'on laissait passer 1% de choses plutôt désagréables. Mais quand même, c'est quand même important de laisser passer ces 1% parce que ça fait plus de mal que de bien. Voilà. Donc effectivement, dire que, enfin, cette espèce de rêve qu'il pouvait y avoir des gens, enfin, qui encore, je pense, d'un espèce d'internet ou de réseau, de différents réseaux où la liberté d'expression serait totale, où les gens s'écouteraient. Discuterait gentiment, sympathiquement, etc.
Ça, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ça.
Ben, voilà, exactement. On est dans un univers qui a pu apparaître comme une utopie.
Ça défoule les haines, quoi, vraiment.
Voilà, il y a des travaux qui sont faits. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de travaux, d'ailleurs, hein, sur les biais. On appelle ça les biais cognitifs, hein, les bulles qu'il peut y avoir. Bon, de toute façon, les gens en général, bon, je ne vais pas être très innovant en disant ça. Hein, bon, ils vont tout simplement aller sur Internet ou sur les réseaux, et ils ont tendance plutôt à chercher des choses auxquelles ils croient déjà. Donc, par exemple, si je suis de gauche, eh ben, je vais peut-être aller sur le site d'Attaque, sur le site du Figaro. Voilà. Mais si j'étais un citoyen éclairé, eh ben, j'irais à la fois sur le site d'Attaque et sur le site du Figaro, justement. Donc, par rapport à ce que tu disais sur l'information, moi, je pense quand même, alors là, je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'est pas grave, je vais assumer. Il y a quand même aussi une responsabilité des utilisateurs.
Bien sûr.
Donc, ouais, les utilisateurs. Alors, c'est pas forcément facile. Hein, il peut y avoir une forme de manipulation, si on pourra en reparler. Mais je pense que, apprendre l'esprit critique, arriver à sortir, alors, je vais employer des mots peut-être un peu banals, de sa zone de confort. Aller lire ses ennemis, et moi des fois quand je lis mes ennemis politiques, ça m'agace, hein. Je vais le dire, je fais des bonds de 3 mètres quoi. Mais de temps en temps, il faut quand même le faire, je crois.
Je te rejoins, et ma remarque allait en ce sens là c'est qu'à un moment donné, je peux me dire, je peux avoir un esprit critique, mais si au départ je me dis c'est bon, je suis rassuré parce que sur Facebook il y a un logiciel qui va avoir l'esprit critique à ma place.
Non, voilà. C'est à l'heure ça.
Non, mais c'est ça, mais vu qu'à un moment donné des discours sont allés en ce sens là et je me dis, c'est effrayant en fait.
Tout à fait.
Et moi, la question, c'était même au-delà, est-ce que Internet ne s'est pas appauvri ? Alors, je pourrais citer plein d'exemples, je vais juste en prendre deux. Donc, je vais prendre par exemple YouTube. YouTube, on connaît tous YouTube, donc c'est la plateforme de vidéos de Google, où maintenant, je pense que majoritairement, toutes les personnes passent par YouTube pour présenter des vidéos. Et avant, quand beaucoup de personnes pouvaient mettre des vidéos en ligne, on avait plus de... Comment dire ? On avait une grande diversité. Et je vais le mettre en parallèle avec un site illégal qui s'appelle The Pirate Bay. The Pirate Bay, moi, je le mets... En fait, la fermeture de The Pirate Bay, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, je le mets en parallèle avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Je m'explique. Ouais, je te vois. Alors en fait, The Pirate Bay permettait en fait à des personnes d'échanger une foultitude d'informations obtenues d'une façon ou d'une autre, mais en fait, ça te permettait d'avoir. Moi, je prends l'exemple de la musique, c'est qu'il y a des versions de morceaux de musique que je ne trouve plus sur Internet parce que le site Deezer a standardisé tous les morceaux qu'il y avait, que sur YouTube, tu trouves toujours les mêmes versions. Et que si tu veux trouver un morceau spécifique, hormis chez un particulier qui te le proposait et que tu pouvais accéder sur The Pirate Bay, tu ne l'as plus. Et en fait, c'est cette diversité-là qui a disparu, je trouve. Moi, je me suis retrouvé à... Tout à l'heure, on parlait de la Chine ou autre part. Je me suis retrouvé en Alaska où, sur Deezer, il y a des morceaux de musique que je ne pouvais pas écouter. Parce que, en fait, la législation ne permettait pas d'écouter du Goldman, par exemple. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh. Et que ma version de Burn de Deep Purple ne passait pas, que Deezer avait décidé de me la remplacer. Et personnellement, pour aimer John Lord, le pianiste, et pour aimer les solos de John Lord, eh ben, je me suis dit, bah, tiens, à un moment donné, la version, le morceau de musique que j'écoutais a été remplacé et je n'y ai plus accès. Et donc, à un moment donné, les morceaux de musique... que je pouvais obtenir, et ben je ne peux plus obtenir. Et donc c'est juste en ça que je dis qu'on a perdu énormément d'informations, parce que en fait on s'est mis à standardiser l'information que tu pouvais avoir ou pas.
Ouais, là, tout est standardisé, parce que même les bouquins Martine qu'on lisait quand on était jeune, maintenant ils ont simplifié, ils ont gardé les images et ils ont simplifié la syntaxe, c'est comme si les enfants de maintenant étaient incapables de comprendre ce que nous on comprenait il y a 50 ans quoi. Donc c'est une standardisation pour abêtir les gens quoi.
Martine sur Google, c'est ça?
Ouais.
et c'est en ça que je trouve qu'on a Internet.
Martine quitte Facebook.
C'est en ça que je trouve qu'Internet s'appauvrit. Je dis pas qu'il faut pas de contrôle ni d'uniformisation, mais on est plus dans de la standardisation d'information et d'accès à l'information. Et c'est ça que je trouve dommage. Et c'est en ça que la position, pour pas dire la position des GAFAM, je trouve effrayante. Moi, quand j'avais des étudiantes et étudiants, parce que j'enseignais l'informatique. Et quand ils m'expliquaient, Facebook ne le propose pas. En fait, il y a 10 ans, mes étudiants et étudiantes me parlaient de Facebook et de Google comme moi, je parlais d'Internet. Tu vois la dérive qu'on fait, c'est que pour eux, si Google ou Facebook ne le propose pas, ça n'existe pas. Et en fait, c'est cet écran qu'il y a au-dessus d'Internet qui moi, m'effraie un peu. Enfin, m'effraie. Que je trouve dommage en fait cette perte-là.